tous et à toutes. Je voudrais demander à Arnaud si tu veux prier pour remettre ce message.
Seigneur notre Dieu, merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Eh bien, ce matin, nous allons méditer dans un texte biblique qui se trouve Galates, chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Alors Galates, chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voilà. Vous avez ici dans ce passage une question, hein, c'est la question des semailles. On sème. Et il y a un principe. C'est un principe agricole. On ne sème que ce que l'on a, on ne moissonne que ce que l'on a semé. Si vous semez du blé, vous obtenez du blé. Si vous semez des épines, vous obtenez des épines. Si vous semez un pommier, vous récolterez un jour des pommes. Si vous semez un figuier, vous plantez un figuier, vous obtiendrez un jour des figues. C'est un principe agricole qui est, selon une sagesse rustique, c'est une sagesse élémentaire. C'est quelque chose qui tombe sous le sens. On se dit, mais il est impossible que ce soit autrement. C'est en toute logique. Personne n'a semé du blé et a récolté des épines. Personne ne sème du blé et ne récolte des tomates. Ce serait la première fois que cela arriverait. Un cultivateur serait très étonné si un jour, dans un champ de blé, il trouvait des tomates. Ou s'il trouvait, je ne sais pas, même une autre céréale. Il a semé du blé, il récolte du riz. Vous dites, c'est impossible. Impossible. Et ce qui est impossible du point de vue matériel et agricole et humain, eh bien, c'est impossible du point de vue spirituel aussi. Si vous avez semé le mal, vous récolterez le mal. Si vous avez semé le bien, vous récolterez le bien. C'est toujours comme cela que les choses se passent. Nous sommes dans un monde qui a compris ce principe et qui sème à tout vent toutes sortes d'idées. Vous avez des multitudes de choses qui sont semées dans les cœurs, aussi bien des petits-enfants que des adultes. C'est par le moyen de l'école, par le moyen de la télévision, par le moyen de toutes sortes de médias, il y a des choses qui sont semées. Et c'est une semence qui porte du fruit. Et un fruit, parfois, dont nous disons, mais comment cela, nos chers petits, peuvent dire et peuvent penser des choses pareilles? Parce qu'ils l'ont entendu. Parce qu'on a semé dans leur cœur. Je me rappelle, c'était mes petits-enfants, mes deux petites filles, hein, c'est Sarah et Ruth, elles ont quitté la maternelle. Elles sont arrivées au CP, chacune, hein, à une année de différence. Et puis, donc d'abord Sarah, première année d'école primaire, premier moi, qu'est-ce qu'ils sont allés visiter? L'homme de Totavel. Vous ne connaissez pas l'homme de Totavel, Romuald n'est pas là. Mais l'homme de Totavel, c'est un homme préhistorique qui a été découvert dans une grotte. Bon, on n'a pas retrouvé l'homme préhistorique, on a retrouvé ses restes. Hein. C'est le squelette. Et alors, ce qui en restait du moins. Et alors, aussitôt, ils ont appris l'évolution. Qu'ils ne sont pas autrement que des singes qui ont évolué. Bon, maintenant, il paraît que les singes, c'est fini, on ne croit plus aux singes. Hein. L'homme descend d'autre chose que du singe, il ne descend plus du singe. Maintenant, celui qui dit qu'il descend du singe, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Mais je me dis, mais quand même, ils n'ont pas pu attendre qu'ils soient au moins au collège pour parler d'évolution. Non, 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 Et ils n'ont même pas commencé à lire et à écrire et à compter comme il faut. Bon, ils avaient écrit, hein, c'était déjà dernière année de maternelle, ils avaient déjà fait quelques études là-dessus. Mais non, c'était le programme de leur inculquer, en fait, que Dieu n'existe pas. C'est l'homme est le produit du hasard. Et c'est quelque chose qui est semé dans les cœurs dès la petite enfance. Je me rappelle même, maternelle, c'est mon garçon Jean-Marc aimait bien parler et surtout de ce qui est, de choses que les copains ne savaient pas. Ça, c'est hein, tout le monde aime ça. Et alors, je leur avais dit, mes enfants, le Père Noël n'existe pas. C'est nous qui offrons les cadeaux. Donc, il n'y a pas de Père Noël. Parce que à l'école, brusquement, on a eu des personnes qui sont. Les enfants nous ont dit, Père Noël, ça n'existe pas. Donc, on dit la vérité aux enfants et on ne veut pas leur apprendre le mensonge. Et alors, un jour, j'ai été convoqué par l'institutrice et elle m'a dit, vous savez, vos enfants disent que le Père Noël n'existe pas. Et il y en a qui y croient. Alors, il faudrait que vos enfants ne parlent plus. Que le Père Noël n'existe pas. Parce que pour certains, il existe. Alors, la question ne se pose pas. Qu'ils se taisent. Voilà. Mais si vous parlez de Dieu, ah non, ah non, là, vous faites du prosélytisme. Non, on peut parler du Père Noël, que tout le monde sait qu'il n'existe pas, et comme s'il existait. Mais Dieu qui existe réellement, il ne faut pas en parler. Parce qu'il y a certains qui n'y croient pas. Et on voudrait leur laisser leur chance de ne pas y croire surtout. Vous voyez, on sème dès l'enfance, dès la petite enfance, notre chère école de la République ensemence les cœurs de nos enfants dès le plus bas âge. Et on nous reproche, nous, quand on parle de Jésus-Christ à nos enfants, de les manipuler et de les introduire dans une secte. Voyez la semence. On essaye de semer quelque chose et on nous défend de semer autre chose qui est semée. Il faut que les enfants entendent que Dieu n'existe pas. Et si nous on dit qu'il existe, eh bien on va contre la semence qui est légalement introduite dans le cœur et qu'on a prévu que les enfants entendraient. Et voilà cette semence-là. C'est une mauvaise semence. Chacun récolte ce qu'il a semé. Et ils espèrent bien récolter des incrédules. Mais ils récoltent aussi des bandits, hein. Parce que on dit oui, mais il n'y a plus de retenue maintenant. Les gens ne. Eh oui, il n'y a plus de jugement éternel. Il n'y a plus un jour une rencontre de l'homme avec son Créateur, et où il va rendre des comptes pour ce qu'il a fait. Comme on a dit, Dieu n'existe pas, vous n'êtes que des animaux. Est-ce que je peux, en toute logique, me conduire autrement comme un animal? Regardez un chien. Il a mauvaise conscience quand il mange dans la gamelle de l'autre. Ah, il peut voler l'os de. Ils peuvent même se battre, hein? Et il y a des chiens qui arrivent à se faire très mal, à se mordre, se battre, et pour un vieil os qui traîne depuis même une semaine dans la gamelle, même qui est plus ancien que ça encore, hein? Mais ça, tout est normal. C'est normal. Nous sommes des animaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y a l'animalité qui reprend son dessus et qu'est-ce que vous voulez? Il y a la bête qui est en nous, qui est revenue. Mais de dire l'homme est une créature spéciale de Dieu, qui est créée à l'image de Dieu et qui est différent de l'animal, même si nous avons un corps animal, nous sommes différents d'un animal, par quelque chose de beaucoup plus profond que simplement une ressemblance physique avec l'animal. C'est vrai que si on regarde bien, nous avons un cœur, un foie, des poumons, comme la plupart des animaux et les mammifères encore sont encore plus ressemblants avec nous. Et même si vous prenez les grands singes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais comment dire, la ressemblance s'arrête là. C'est une apparence. Au-delà, il y a quelque chose de plus qui est dans l'homme que simplement l'animalité. Et même, je me rappelle cette revue scientifique où il y avait un scientifique qui disait clairement, c'est attention, faites attention, à intelligence égale entre un animal et un être humain, il n'y a aucune comparaison. Parce que dans l'être humain, il y a quelque chose de plus que dans l'animal. Alors j'étais stupéfait de lire ça dans une revue scientifique très connue, mais néanmoins, il y a des scientifiques maintenant qui commencent à dire « nous sommes quand même plus que des animaux, il y a quelque chose de plus ». Et l'homme a des aspirations qu'un animal n'aura jamais. Mon chat, il attend que je lui donne une caresse le matin. Voilà. Et puis il vient en demander d'autres si je suis là dans l'après-midi. Et puis de temps en temps, il demande aussi à manger. Et puis, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas une vraie relation avec Dieu. Ou il n'y a pas de relation du tout avec Dieu. Il ne prie pas. Il ne pense pas à Dieu. L'animal n'a pas ce genre de réflexion. Il n'y a que l'homme qui se dit, il y a un Dieu. Et qu'est-ce que je dois faire avec ce Dieu? C'est ce que les philosophes appellent l'esprit religieux. L'esprit religieux. Donc il faut s'en débarrasser parce que ça fait partie de l'évolution. Hein. L'athéisme, c'est le summum de l'évolution. Et on sème dans le cœur des enfants et des personnes que l'instinct animal, que l'animalité, eh bien, doit prédominer. Et il faut faire ce que je veux. Il faut faire selon mes pulsions, selon mes appétits, selon mes besoins. Voilà. Oui, mais mes besoins ne correspondent pas aux besoins de l'autre. Alors, il y a conflit. Ah, mais c'est normal. Ce sont des conflits d'intérêts. Qu'est-ce que vous voulez? Dans toute société, il y a des intérêts différents. Alors, les gens arrivent à se frotter un petit peu trop et il y a des étincelles qui se produisent. C'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais on nous a inculqué, on sème quelque chose dans notre cœur. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à la semence qui est jetée dans notre vie, dans nos cœurs. Et ce qui est jeté dans le cœur de nos enfants. C'est très important. Privilégier une bonne semence, une vraie semence. Regardez où, quel est l'enseignement qui est porté dans votre cœur. Si vous analysez bien ce que vous recevez du monde, vous verrez que ces choses-là, eh bien, pourrissent votre vie. Et vous incline dans une direction qui n'est pas celle que vous voudriez, dans une pleine liberté. Vous devez réfléchir et analyser qu'est-ce qui est semé dans mon cœur, qu'est-ce que j'accepte. Et c'est comme cela que des chrétiens disent, mes enfants, ont mal tourné. Il y a même des pasteurs, et j'ai connu des pasteurs, qui m'ont dit, mes enfants, ils sont tous dans le monde. Qu'est-ce qu'ils avaient semé dans le cœur de leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils avaient semé? La télévision? Pour se libérer, pour avoir plus de temps, ils mettaient les enfants devant la télévision. Ah, mais les enfants étaient, ce sont des éponges. Ils sont ce qu'on appelle, ils sont en phase d'imprégnation. Ils s'imprègnent de tout. Tout absorbe. Ils pompent tout. Et le bon et le mauvais, ils ne sont pas capables de juger ce qui est bien et ce qui est mal. C'est dans l'Épître aux Hébreux. C'est dit, ceux qui par l'usage apprennent à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. Donc c'est les adultes, les hommes faits, qui peuvent le faire. Les enfants ne sont pas toujours en mesure, et plus ils sont petits, et moins ils sont en mesure de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous devons les protéger et leur dire, ça c'est mal, et ça c'est bien. C'est notre responsabilité devant Dieu de dire à nos enfants, ça c'est mal. Ça c'est le péché, ça c'est la désobéissance, même si c'est dans la télévision. Je me rappelle de ce petit film, c'est gentil, hein? C'est trois petits canards. Et les trois petits canards sont les neveux d'un certain Donald Duck. Et alors, vous connaissez, vous savez de quoi je veux parler. Et alors, ils se trouvaient, c'était fêté Halloween. Et alors, ils avaient des costumes, étaient habillés en diable. C'est celui que j'ai retenu. Et puis, ils rencontrent une sorcière. Et l'oncle ne voulait pas leur donner quelques friandises. Il les a bien roulées. Alors la sorcière voulait leur jouer un mauvais tour et finalement, Là, il lui arrive beaucoup de mal. Mais les petits canards, ils disent, nous, nous croyons aux sorcières. Ah, la bonne profession de foi, hein. Et nos chers petits, eh bien, on les met devant des choses comme cela, où il y a des démons, il y a des sorcières, et il y a jamais. Je peux dire que j'ai vu beaucoup de films de Walt Disney. Jamais il y a eu une parole où j'ai vu, nous, nous croyons à Dieu. Par contre, croire au di diable et croire aux sorcières, qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans les films de Walt Disney? Oui, constamment. Vous avez rappelé même Fantasia où tout ça, c'est rempli de sorcières et de sorciers et de tours de magie et de choses comme cela. Et la carrosse, la belle au bois dormant. Et on met les enfants là-devant. Ils nous laissent tranquilles pendant ce temps. Et oui, ils sont occupés. Mais ils sont occupés. Et ils reçoivent une semence mauvaise, diabolique, dans leur cœur. Mais c'est pour enfants. Vous vous rendez compte? C'est malheureux, mais c'est comme cela que nous agissons vis-à-vis de nos enfants. Et si on disait, mais on va leur faire voir des choses diaboliques, hein, où il y a des tours de magie et vraiment le diable agit, on va dire, non, non, ça, nos enfants, jamais. Mais c'est une bande dessinée faite pour enfants. C'est un film, c'est un dessin animé, voilà. Or, c'est pas grand-chose. C'est pour enfants, vous savez. C'est malheureux, mais c'est comme cela. Et ce sont nous, chrétiens, qui agissons de cette manière-là. On fait ce que même les gens du monde, si on disait à certaines personnes du monde, on va mettre nos enfants devant certaines scènes et tout cela, ils disent, mais jamais, hein. Jamais j'accepterai que mes enfants voient des choses pareilles, hein. Et pourtant, nous, nous sommes capables de le faire. Et c'est comme cela que des pasteurs, et je les ai rencontrés, disaient, mais mes enfants, ce sont tous détournés du Seigneur. Il n'y en a pas un qui marche avec le Seigneur. Et même parfois, et je connais, je pourrais citer des noms d'enfants, de chrétiens et de pasteurs qui sont dans le monde et qui font les choses pires que le monde. Il y a des gens du monde qui condamnent ce genre de choses. Et s'ils sont pris par la police, ils vont en prison à cause du mal qu'ils font et de leur débauche et de leur corruption. C'est quelque chose. Parce que dès l'enfance, on a semé une semence mauvaise. On a laissé aller, on a laissé faire. On récolte ce que l'on a semé. Il n'y a pas de fatalité. Comprenez bien, il n'y a pas de fatalité. La fatalité n'existe pas. On récolte ce que l'on a semé. Si on sème le mal, on récolte le mal. Si on sème la négligence, si on sème le monde, on récoltera exactement ce que l'on a semé. Par contre, et ça, c'est, je passe avec le côté négatif. Par contre, si vous semez la bonne semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, une vie chrétienne authentique, si vous semez la semence du chrétien que vous êtes, que vous devez être, c'est-à-dire pas le chrétien hypocrite, pas le chrétien qui joue la comédie, qui vient à l'église, mais qui se comporte dans le monde exactement comme le monde, hein. Parce qu'il y a des chrétiens comme cela. Ils peuvent toujours parler à leurs enfants et dire non, non, mais c'est bien de marcher avec le Seigneur et d'aller au culte dimanche. Hein. Si vous n'y allez pas, vous n'allez pas convaincre vos enfants de le faire. Mais ces personnes-là, eh bien, qui ont semé cette bonne semence sans hypocrisie, parce que les choses viennent de leur cœur, ils aiment le Seigneur d'un amour inaltérable, ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment prier, ils aiment intercéder, ils aiment leurs frères en Christ. Eh bien, les enfants vont suivre ce chemin-là, parce que c'est votre vie qui sème dans leur vie une bonne semence. Vous leur montrez une vie chrétienne authentique, pas une vie chrétienne fausse, pas un décor. Ce qu'ils aiment, ce que les enfants voient. Et ils sont très, très exigeants et ils voient beaucoup plus clair que nous. Ils voient si nous sommes hypocrites ou si nous ne le sommes pas. Ils voient ce qui est vrai et ce qui est faux dans notre vie, très vite. Ils ne savent pas l'analyser, mais ils savent si nous aimons Dieu vraiment ou si nous ne l'aimons pas. Ça, ils ne savent pas pourquoi, ils ne peuvent pas vous expliquer, ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont bien vu dans notre vie, mais ils le savent. Et alors, si vous avez semé cette semence, d'une vraie vie chrétienne, eh bien un jour vous en récolterez les fruits. Et un jour vous verrez que l'enseignement que vous avez donné, même sans vous rendre compte, eh bien, il avait de la valeur. C'est comme cela. Parce que on récolte ce que l'on a semé, toujours. Et vous regardez, vous verrez, et on peut voir ces chrétiens qui ont été élevés. Parfois, le malheur est arrivé dans la vie. Hein. Même dans les siècles passés, souvent le père disparaissait. Dans une maladie, dans un accident de travail. Les accidents de travail arrivaient très souvent. Et les maladies, parfois, un hiver, privaient la famille d'un père, ou d'une mère, ou d'enfants. Je me rappelle d'une lettre que j'ai lue d'un chrétien qui écrivait à une personne de sa connaissance. Il disait « Quelle grave épreuve par laquelle vous êtes passé. Cet hiver, vous avez perdu deux de vos enfants. » Allez, c'était un hiver plus rude. La maladie est entrée dans la famille. Deux enfants sont décédés. Ils étaient quatre, maintenant ils ne sont plus que deux. Et parfois c'était le père, parfois c'était la mère. Et c'était une famille qui manquait un des parents. Et malgré tout, eh bien, le parent qui restait a éduqué les enfants dans la vie chrétienne et dans les principes chrétiens. Et on pouvait dire, ah oui, mais celui-là. Je me rappelle de cette histoire. C'était un prédicateur, un pasteur qui avait invité un prédicateur plutôt. Et le prédicateur pour annoncer l'évangile. Et alors, après plusieurs semaines d'évangélisation, de prédication, c'était la fin des prédications, et le pasteur avait en face de lui l'évangéliste, et l'évangéliste était assez mécontent du pasteur. Et il faisait savoir en termes, pas directs, mais voilà, que ça n'avait pas marché aussi bien qu'il avait l'habitude. Et alors, le pasteur sauvait les meubles, comme on dit. Et alors, il disait, oui, bien sûr, il n'y a pas eu d'âme sauvée, évidemment. L'évangéliste disait, oui, mais vous vous rendez compte, pas d'âme sauvée, je suis venu pour rien, finalement. Et puis, à un certain moment, le pasteur qui voulait quand même, il a dit, oui, mais on ne peut pas dire que c'est tout à fait négatif. Vous voulez parler du fils de cette veuve qui s'est convertie. Bon, mais c'est un enfant, ce n'est... Mais l'enfant qui s'est converti est devenu un adulte plus tard. Et on pense que cet homme a amené 5 millions de personnes au salut. Mais c'était le fils d'une veuve. Oui, mais c'était une veuve pieuse qui éduquait son seul enfant dans la piété, dans l'amour de la parole de Dieu, dans l'amour des principes divins qui sont inscrits dans la parole de Dieu, qui l'ait éduqué dans la prière, dans le zèle, dans la consécration à Dieu, dans le renoncement à soi-même. Et ce fruit, cette semence qui était semée dans ce petit cœur, eh bien, a porté du fruit et a fait de cet homme, cet enfant, un homme, un autre évangéliste, et un évangéliste qui a porté la parole là où d'autres n'ont pas pu la porter, et qui a eu un grand ministère aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Parce que cette veuve méprisée, monsieur le fils d'une veuve, qu'est-ce que vous voulez encore parler de cet enfant? C'était un enfant, mais il était éduqué comme il faut. Et le fruit qui a été semé dans son cœur, eh bien, la semence qui a été semée dans son cœur a porté du fruit. Et un fruit pour la vie éternelle, pour le salut des âmes. Vous ne perdez pas votre temps quand vous êtes droit, quand vous avez une vie chrétienne authentique, quand ce que vous dites, vous le vivez vraiment, quand vous aimez la parole de Dieu, quand vous êtes fidèle dans la parole de Dieu, quand vous êtes consacré à Dieu, parce qu'il y a des personnes qui vous entourent. Les premières qui sont autour de vous, c'est votre propre famille. Et ces personnes voient ce que vous êtes et prennent des leçons de votre vie chrétienne. Dès leur petite enfance, ils savent et ils voient dans la bonne direction. Mais il y a aussi vos collègues de travail, il y a votre famille inconvertie, que les parents, les beaux-pères, les belles-mères, les cousins, les cousines, tout cela qui voit cette vie chrétienne authentique. Et que vous le vouliez ou non, votre vie chrétienne porte du fruit. Un bon fruit ou un mauvais fruit. Parce qu'il y a une marque d'authenticité dans la vie d'une personne. Et cette marque d'authenticité est absolument nécessaire, parce que c'est une semence qui est mise dans les cœurs. Il y a une manière d'aller au supermarché qui est chrétienne et une manière qui ne l'est pas. Alors, je ne vais pas analyser la chose, hein, mais je vous dis, soyez d'abord des chrétiens authentiques, vivant pour Dieu, et après, il y a une manière de sourire, il y a une manière de se comporter avec les autres, il y a une vie chrétienne qui se manifeste. Et cette vie chrétienne, eh bien, un jour, les gens se disent, mais il y a quelque chose. Et ce quelque chose, j'aimerais bien le savoir. Je n'étais pas chrétien à l'époque, mais malgré tout, j'ai vécu dans une famille chrétienne. Mes parents se sont convertis, j'avais 11 ans. Et j'ai eu des principes chrétiens sous les yeux, et ces principes ont fait mon éducation chrétienne et ma manière d'être. Hein. Donc ils ont changé ma vie. Et puis mes parents mettaient sous mes yeux des livres qui étaient, non, peut-être pas toujours chrétiens, mais des livres dans lesquels il y avait des principes moraux, et des principes de relations sociales qui étaient authentiques et véritables. Donc je ne citerai pas les noms parce que ce n'est pas le moment. Mais néanmoins, c'est une éducation qui a été faite. Et je me suis retrouvé avec des inconvertis qui ne savaient pas que je venais d'une famille chrétienne. Je me rappelle d'un ami, j'avais un très grand ami qui était du peuple d'Israël. Hein. Il s'appelait Yves Bétain. Et c'est un jour, je me suis converti, vraiment converti. Et alors, je lui ai dit, et je lui ai donné mon témoignage, et je lui ai expliqué. J'ai vu cet homme pleurer, avoir dans les yeux, hein, mais il était communiste. Et il m'a dit non, je veux sauver l'humanité par le communisme. Et alors, bon, je ne sais pas ce qu'il est devenu plus tard. Mais il m'a dit, mais j'avais quand même remarqué qu'il y avait quelque chose de différent chez toi. Quelque chose que je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui peut bien être ce gars-là ? C'est parce que dans ma vie, dans ma famille, j'avais reçu des principes chrétiens. Et sans même me rendre compte, il y avait quelque chose qui transparaissait. Je ne le savais pas, mais je ne le comprenais pas, et je n'étais même pas chrétien. Mais il y avait quelque chose qui déteignait autour de moi. Et je dis, si un inconverti qui est élevé dans une famille chrétienne peut déteindre à ce point, alors qu'est-ce que c'est qu'un chrétien ? Et il doit le faire. Il doit y avoir quelque chose. C'est avant même que nous ayons ouvert la bouche, eh bien notre témoignage doit nous avoir précédé, notre manière de vivre. Et quand les gens entendent que nous sommes chrétiens, ils disent « oui, c'est vrai ». Je pensais bien qu'il y avait quelque chose. Le témoignage ne doit pas être « ah bon, tu es chrétien ? Ah bon, j'aurais jamais pu le penser ». Tu n'es pas différent de nous. Hein. C'est vrai que les chrétiens peuvent être exactement comme les gens du monde. C'est une catastrophe si les gens peuvent dire quelque chose comme ça de vous. Parce que vous devez être différent. Nous devons porter la différence. Il y a une différence. Elle doit se voir. Elle doit exister parce qu'elle existe. Elle doit être visible. Exactement comme quand vous avez l'épi de blé qui est sorti de terre, vous regardez l'épi de blé, vous dites c'est du blé. Et même quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose verra la différence entre un épi de blé et un épi de riz. Ou on dit c'est du blé, c'est pas des tomates, c'est pas des radis, c'est du blé. Oui, c'est certain. Mais c'est comme cela. Il doit y avoir quelque chose qui transparaît, parce qu'il y a une semence qui est jetée dans notre cœur. Il y a un fruit qui se porte. Il y a quelque chose qui agit en nous. Nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons. C'est une semence qui est jetée dans notre cœur. Et elle doit porter du fruit. Si elle ne porte pas de fruit, il y a un problème. Soit notre cœur est tellement dur que la parole de Dieu ne pénètre pas. C'est la parabole du semeur. Hein. C'est vrai pour les inconvertis, mais c'est vrai pour nous aussi, à plus forte raison. C'est la parole de Dieu doit agir dans notre vie. Il y a des principes bibliques, des principes chrétiens qui doivent rentrer dans notre vie. Il y a une manière d'être qui est une manière d'être qui est chrétienne. Après, il y a des gens qui ont une façade chrétienne. Alors je ne parle pas de ces gens-là, c'est l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie, méfiez-vous, fuyez-la. Et l'hypocrite, il est vite dans notre cœur. Hein. On essaye d'imiter d'avoir une forme chrétienne. Et on se contente de cela. Mais la vie chrétienne, et c'est ce que Paul dit, hein, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ce n'est pas forcément d'être né de nouveau, mais c'est cette vie éternelle, c'est une vie, la vie de Dieu, la vie qui a une dimension éternelle, une vie qui ne périt pas. Ce sont parce que nous sommes à la ressemblance de Christ, à l'image que nous avons dans la parole de Dieu. Et c'est une vie éternelle. C'est une vie qui a une dimension d'éternité. Alors si vous vous contentez de ce que vous recevez à la télévision ou dans les films, ou si vous imitez plus facilement, je ne sais pas, les grands acteurs de ce monde, et vous vous conformez dans vos vêtements, dans votre manière d'être et dans votre coupe de cheveux et des choses comme cela à ce qui est dans le monde, eh bien vous aurez du mal à vous conformer à ce que dit la parole de Dieu. Et je suis parfois concerné parce que je me dis, mais on passe devant les médias de ce monde des heures que nous ne passons pas dans la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui peuvent passer 2 heures, 3 heures à regarder des âneries à la télévision, excusez-moi l'expression, hein, parce que quand j'entends ces moqueries, maintenant elles me font très mal. C'est quand j'entends les moqueries de ces gens, les gens voisins qui écoutent ça, je n'entends pas ce que c'est, mais j'entends ces rires. Ce sont des moqueries. Il y a une blague qui est dite, que j'entends pas, et j'entends des éclats de rire. Et je me dis, mais quand même, on se moque de qui ? On se moque de quoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des moqueurs. Ce sont des moqueurs. Il y a quelque chose qui n'est pas net. La vie n'est pas une immense plaisanterie. Quand j'étais inconverti, je me dis, la vie, c'est tellement triste. C'est une plaisanterie. Il faut rire, il faut rire, il faut rire. Et un jour, je suis devenu chrétien. Et tout ça, j'ai dit non. La vie, c'est la chose la plus sérieuse que nous ayons. Dieu nous a confié une vie. Et cette vie, il faut la vivre. Il faut la vivre tous les jours. Il faut la vivre à la gloire de Dieu. Ce n'est pas une plaisanterie. Et ce monde essaye de nous faire croire que la légèreté, la superficialité, que la moquerie, que toutes ces choses-là, eh bien, c'est la vérité. Mais votre voisin, il a autant droit à l'existence que vous. Il a autant droit au respect que vous. Ce n'est pas parce qu'une personne est chauve ou aveugle ou manchot ou a un problème physique. Et ces moqueries, on dit, alors j'ai une histoire. Hein. Alors c'est un chauve qui rencontre, et celui qui est chauve, eh bien il aime ce genre de plaisanterie. Ou c'est quelqu'un, alors il est gros, hein, il pèse 100 kilos. Et les gens qui pèsent 100 kilos, vous croyez qu'ils sont heureux de peser 100 kilos ? Et que quand ils entendent ces plaisanteries, ils sont heureux ? On sème la moquerie et la discrimination. Et nous devons faire bien attention. Nous sommes chrétiens. Et il y a des choses où on ne rit pas. Parce que la personne qui est infirme, ou qui a un problème physique, ou qui a une différence par rapport à un autre, eh bien, il mérite notre respect. Et notre amour chrétien. Et il a besoin que l'on cesse de se moquer de lui. Et ce monde est un monde de moquerie et de discrimination. Alors on vous dit, oui, on ne parle plus maintenant mal des homosexuels. Oui, bien sûr, mais on parle mal des autres et de gens. Alors c'est une histoire, mais ne vous en faites pas, mais c'est un bon juif qui raconte cette blague sur les juifs. Hein. Alors, ou c'est un belge qui raconte une histoire sur les belges. Hein. Alors ne vous en faites pas. Mais ce n'est pas parce que c'est eux qui racontent qu'on a le droit de se moquer d'un peuple, d'une nation, d'une race, d'une ethnie. Ces gens-là, nous devons prier pour eux, les aimer, intercéder pour eux, avoir du respect pour l'autre, tel qu'il est, parce que c'est une créature de Dieu. C'est un être humain créé à l'image de Dieu. Et je n'ai aucun droit, moi, être humain, autre être humain, d'avoir un regard de discrimination sur qui que ce soit. Mais on sème ça dans le cœur de nos enfants, et on sème ça dans notre cœur, et on l'accepte. Et on accepte ce genre de moquerie et ce genre de choses. La parole de Dieu nous dit de prier, d'intercéder pour les perdus, de les présenter devant le trône de la grâce, pas de se moquer d'eux à cause de leurs différences, à cause de ce qu'ils ne sont pas comme nous sommes, et comme nous estimons que, hein, on est bien comme on est. Non, nous sommes comme les autres. Celui qui est inconverti a besoin de l'Évangile. Et nous, nous avons eu un jour besoin de l'Évangile et nous l'avons accepté. Comme disait quelqu'un, qu'est-ce que nous sommes ? Des pécheurs sauvés. Les autres sont pécheurs perdus. Nous, nous sommes pécheurs sauvés. Mais le dénominateur commun, nous sommes des pécheurs. Et sauvés par grâce. Les autres, eh bien, nous devons prier pour eux, parce qu'eux aussi peuvent être sauvés par grâce. Et nous devons intercéder. Et nous devons alors porter cette semence dans les cœurs et leur dire que l'Évangile est pour eux aussi. Et c'est la semence de l'Évangile que nous devons apporter dans les cœurs. C'est, comme je vous ai dit, eh bien, il y a plusieurs semences. Mais il n'y a qu'un seul fruit. Vous pouvez semer dans vos cœurs, semer dans le cœur des autres. C'est un jour, on récolte des chrétiens adultes, des chrétiens qui aiment le Seigneur, des chrétiens qui marchent avec Dieu. On apporte des principes, ce sont des principes bibliques. Nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons pas penser que parce que nous avons négligé d'ensemencer le champ, eh bien, nous récolterons un jour quelque chose. Je pense à ce proverbe. Le paresseux ne sème pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. C'est comme cela. Quand Dieu avait parlé à Moïse, il avait dit, il parlait aux enfants, il avait dit, tu diras à tes enfants, tu inculqueras, quand tu seras en voyage, quand tu seras, le docteur Israël pourrait nous parler là-dessus, parce qu'il est très au courant de tout cela. C'est quelque chose qui était impératif, il fallait, et ce monde le fait pour le mal. Il le fait pour les enfants, il le fait pour nous. Et nous nous mettons à sa disposition pour être inculqués, pour être éduqués, pour être façonnés. Et vous entendez parfois des réflexions et quelqu'un qui vous dit quelque chose vous dit « Mais c'est pas du tout dans la parole de Dieu, ça. » Tandis que quand vous êtes bien dans la parole de Dieu, vous dites « Ça, c'est mal. Ça, c'est mauvais. » Ou vous pouvez dire « Ça, c'est bien. » Il y a des chrétiens qui se posent des questions. Est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que c'est mal? Oui, mais s'ils avaient lu et médité la parole de Dieu comme il le faut, eh bien, ils le sauraient. Mais comme ils ne sont pas attachés à la parole de Dieu, alors, comme dit Paul aussi, emportés à tout vent de doctrine. C'est sans racine, sans aucun affermissement. Un dit une chose d'une manière, eh bien, ils suivent ce quelqu'un, parce qu'il est persuasif. Et puis un autre dit une autre chose, eh bien, ils suivent cette autre personne, parce que cette personne a les arguments qu'il faut, les illustrations, c'est manipulé, et c'est vraiment présenté ce qu'il dit. C'est enraciné dans la parole de Dieu, enraciné dans l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu parle, et nous devons recevoir cette semence. Nous devons être changés, transformés. Et ce n'est pas en un jour. De même que quand vous semez un grain de blé dans la terre, il est semé et vous allez deux jours après, vous ne voyez rien. C'est seulement une semaine ou deux semaines après que vous commencez à voir que quelque chose se développe. Mais une bonne partie de la croissance est invisible. Et même quand vous constatez la croissance, eh bien cela ne ressemble pas encore à un épi de blé. Et c'est quand il y a la maturité que là vous voyez, vous dites « Ah, mais c'est du blé ». C'est dans notre vie chrétienne, c'est comme cela. Il y a un temps de maturation, un temps de croissance, pendant lequel les choses se passent d'une manière cachée. Et il faut que ce temps se passe. Et il faut que nous ayons la persévérance qui fait que la chose continue à grandir et à s'épanouir un jour dans notre vie et que cela soit visible. Et on dit, oui, mais ça, c'est un chrétien qui donne envie de vivre la vie chrétienne. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu de la persévérance, de la constance, de la prière, du zèle, du renoncement à soi-même. Et il faut aussi se priver de certaines choses. Alors ce monde dit, vous privez, vous privez. Oui, mais ce monde nous prive de la parole de Dieu, nous prive de Dieu, nous prive de ceci et cela. Et il prétend encore parler que nous, si on est privé de télévision, si on est privé du dernier film, ou si on est privé de la dernière information tendancieuse, eh bien, il va nous manquer quelque chose. Mais ce monde n'hésite pas à vouloir nous priver de la parole de Dieu, et nous priver de Dieu, et nous priver de la communion fraternelle, parce qu'il met le doigt sur nous et nous dit: ah, mais vous êtes intolérant, vous, hein? Vous n'acceptez pas tout. Oui, mais ce monde n'accepte pas tout non plus, hein? Il ne nous accepte pas. Il est intolérant avec nous, hein? Alors si nous sommes intolérants avec l'esprit du monde, ben, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas, peut pas y avoir coexistence entre l'esprit du monde et l'esprit de Christ. On essaye de les faire cohabiter, eh bien il y aura un problème. Parce que l'esprit du monde dominera. Parce qu'il n'y a pas de partage entre ce qui est de Dieu et ce qui est du monde. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. C'est si nous tolérons, pensons qu'il peut y avoir un partage, alors c'est Dieu lui-même qui se retire. Et c'est l'esprit du monde qui prend la place. Donc c'est ce verset 9, je termine là-dessus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas. Continuons. C'est vrai qu'au départ, ça paraît pas facile. Mais il y a toujours un commencement. Il y a toujours un moment où on dit non, ce sera comme ça maintenant. On dit, il y a des choses, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Pour le monde, oui, mais pas pour moi. Le monde prend ce qui est à lui. Mais moi, je suis chrétien. Alors, on commence. Et avec ce commencement, on poursuit. Et puis Satan vient nous dire: oui, mais tu te prives. C'est vrai, je me prive. Selon le monde, c'est vrai, je suis privé. Mais j'ai autre chose. Il y a autre chose qui me satisfait autrement mieux, autrement plus. Et au fur et à mesure, et avec du temps, si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable, c'est-à-dire au temps de la saison. Il y a un temps de la récolte. Et je peux vous dire, si vous semez dans le cœur de vos enfants les principes chrétiens, sans hypocrisie, pas des choses qu'on dit et que l'on ne fait pas, mais dans votre vie, dans votre manière d'être, eh bien, un jour, vous dites: mais mes enfants me donnent beaucoup de satisfaction. Parce que vous récoltez au temps convenable ce que vous avez semé dans la petite enfance. Et ça prend du temps. Et un jour, eh bien, vous rendez grâce à Dieu d'avoir eu suffisamment de sagesse pour aller à contre-courant et de dire: non, ça c'est pas possible. Je ne peux plus l'accepter. Parce que il y a un mauvais esprit, il y a quelque chose de mauvais qui est semé dans le cœur de mes enfants et dans mon propre cœur. C'est pour cela que nous devons avoir beaucoup de persévérance. Satan essaye toujours de nous troubler, de nous faire dire: mais Dieu tarde à répondre, mais il faut du temps toujours. C'est vrai, il faut du temps, et il faut de la patience, et il faut de la foi, et il faut faire confiance à Dieu. C'est vrai. Mais celui qui a tort, c'est Satan. Parce que lui, il est jugé, il est condamné. Et le monde est jugé et condamné. Et nous devons faire en sorte de ne pas être jugés et condamnés avec le monde. Parce que parfois, eh bien, on se rend compte que nos principes étaient faux. Notre manière de faire était dans le monde plutôt que pour Dieu. Et alors, avec le temps, on se dit: j'avais tort. Et c'est au bout de 40 ans de vie chrétienne, on se dit: je me suis trompé. C'est 40 ans de perdu. 40 ans. C'est beaucoup. Je vous dis, c'est trop. Et même seulement une semaine sans Dieu, une semaine hypocrite, une semaine où on vivote entre le monde et la parole de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est déjà trop. Ne tolérez pas ces choses-là, parce que il y a toujours une semence. Toujours. Que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, il y a une semence qui est dans votre cœur et qui germe et qui portera du fruit, bon ou mauvais. C'est à nous de choisir.